Cela fait plusieurs années que nous vous écoutons avec plaisir et enthousiasme. Merci Nadia et Martial. On passe derrière vous, c'est très difficile. Les témoignages... donc vos témoignages sont tous plus intéressants les uns que les autres et surtout tous plus édifiants les uns que les autres. Béatrice et Loïc nous avaient demandé de témoigner, je crois, il y a 2 ans, mais nous étions retenus par la logistique des trajets, colonies, camps des enfants. Et d'ailleurs, suite à notre désistement, entre nous et en toute humilité, bien sûr, Père Bernard a décidé d'annuler la session. Nous nous étions tout de même préparés à une nouvelle demande et dépassant notre appréhension de vous livrer un témoignage mal construit et assommant, surtout à cette heure-là, nous voici ce soir devant vous. Alors, Cédric et Myrtille Bourrez, nous sommes mariés, on a compté, depuis 533 361 600 secondes. Donc, c'est 202 mois, 25 jours et 4 heures, ça c'est pour les parents des jeunes enfants, parce qu'ils comptent encore en mois. Et nous, c'est plutôt 16 ans, 329 jours et 4 heures, parce que nous aimons sans compter. Nous avons 4 merveilleux enfants, de 14 ans à 7 ans, et heureusement tous pris en charge par les dominis. Ce soir, nous vous proposons une relecture de notre parcours en nous appuyant sur le titre suivant « Témoin de la fidélité de Vatican II à la grande tradition de l'Église ». Alors pour cela, nous évoquerons dans un premier temps la tradition dans notre héritage familial. Ensuite, nous nous demanderons si nous sommes fidèles à la tradition étant nés après le Concile. Et nous terminerons sur notre vision du Concile Vatican II dans notre quotidien. À quelle place le situe-t-on ?
Donc la tradition dans notre héritage. Myrtille a été élevée dans une famille catholique pratiquante du côté paternel. Ses grands-parents étaient de très grands défenseurs de la vie, investis dans leur paroisse, dans les projets humanitaires et dans la politique. Ils n'ont pas vécu Vatican II depuis la France, ils vivaient entre le Cambodge et l'Allemagne à cette époque. Myrtille n'a pas souvenir que le sujet ait été évoqué en famille. Il y avait déjà assez de discussions enflammées le dimanche sur le communisme, les francs-maçons et la politique. Ces mêmes grands-parents ont été moteurs pour inscrire Myrtille et ses sœurs à la troupe scout affiliée au monastère du Barou dès ses 6 ans. Petit arrêt sur image pour comprendre le contexte, l'abbaye Sainte-Marie-Madeleine du Barou est une abbaye bénédictine française fondée en 1970 dans le Vaucluse. Suite à l'arrivée du père Don Gérard, souhaitant conserver le rite tridentin. La communauté s'agrandit rapidement, mais s'isole de la communauté de départ, car des ordinations sont effectuées à Bédouin par Marcel Lefebvre. En 1988, les relations se tendent puis se rompent avec Marcel Lefebvre, après le sacre de 4 évêques effectué par celui-ci contre la volonté du pape. La communauté accepte alors, sans aucune contrepartie, la reconnaissance canonique offerte par le Saint-Siège. Myrtille débutera le scoutisme cette année-là. Elle y resta une dizaine d'années malgré l'éloignement géographique. En effet, sa maman s'installa dans les Alpes de Haute-Provence après une séparation avec son père. Un an après, son papa décéda brutalement. Sa maman s'est remariée avec un homme éloigné de la foi catholique. L'adolescence a donc été marquée par un tiraillement entre des amitiés nouées au Barou, toutes issues du monde dit traditionnel, et les années du collège et lycée au fin fond des Alpes de Haute-Provence, grand désert spirituel. Elle avait déjà remarqué, en allant à Nîmes chez ses grands-parents, la grande diversité de la liturgie française. Certaines pratiques lui semblaient complètement folkloriques et d'autres lui semblaient presque rédhibitoires. Mais, malheureusement, l'époque et l'âge ne se prêtaient pas à une discussion posée, constructive. La religion n'était pas un sujet à la maison. Elle a donc conservé une grande méfiance envers les textes de Vatican II pendant sa jeunesse et assimilé toutes ses pratiques douteuses à une rupture avec la grande tradition de l'Église.
Cédric est né en Provence, dans une famille catholique pratiquante, très attachée et investie dans la paroisse du village. Plusieurs curés se sont succédés, tous éloignés du rite tridentin, sans pour autant diffuser des idées progressistes. La liturgie proposée a toujours été teintée d'un folklorisme local, surtout au moment de Noël, fêté en habit traditionnel des santons de Provence, avec un agneau vivant dans l'église. Le catéchisme, assuré par des fidèles, a été proposé pendant de longues années. Ces personnes courageuses ont tenu bon face à une municipalité communiste, mais Cédric fut le dernier enfant de cœur du village et aida le prêtre jusqu'à ses 17 ans. Malgré cela, il n'a jamais connu le sacrement de réconciliation, ni de proposition de confirmation, et a découvert la présence réelle une fois adulte.
C'est vrai.
Cédric conserve un arrière-goût d'édulcoration de la foi. Il lui semble aujourd'hui avoir vécu des commémorations le dimanche à la place d'une sainte messe. Cédric a vécu dans une famille où le dialogue avait peu de place. Il n'a aucun souvenir d'avoir évoqué la foi ou les sacrements, et encore moins la tradition. Il se souvient d'avoir assisté par hasard lors d'un déplacement à une messe en latin. Son père lui avait expliqué que c'était la messe comme avant. Point.
Nous avons décidé de nous marier assez vite dans notre église paroissiale à Reillanne, dans les Alpes de Haute-Provence. Le curé, ayant déjà un âge avancé, déjà en retraite, attendait patiemment un autre prêtre pour prendre la relève. Nous avons seulement rencontré un soir un autre couple de la paroisse en guise de préparation au mariage. Mais en toute franchise, entre nos études, le travail et notre jeunesse, cela nous semblait suffisant à l'époque. Jeune marié, avec Isor, notre aîné, comme premier bagage, nous sommes partis nous installer en Australie. Nous avons mesuré à quel point nous étions pas bilingues et nous avons eu beaucoup de mal à suivre une messe correctement le dimanche. La seule messe en latin, sous le rite de Saint-Pie V, était une messe basse, donc absolument pas adaptée à un enfant âgé de 1 an et demi. Nous avons alors accéléré l'apprentissage de l'anglais pour se raccrocher à la cathédrale, grande paroisse avec des familles. Néanmoins, nous gardons en mémoire la difficulté de comprendre et de s'adapter à des liturgies différentes dans une langue autre que le latin. À l'heure de la mondialisation, le choix d'une langue universelle, le latin au hasard, nous semble une idée contemporaine. Lors de notre retour en France en 2011, nous avons découvert la communauté Saint-Martin implantée dans notre petit village du Haut-Var. Nous avons été touchés par le dynamisme et surtout le respect de la liturgie assumée par les prêtres de la communauté. Puis, en 2013, ce fut la rencontre avec les Domini, fatale, l'intégration de la cordée de Draguignan qui nous ont aidés à comprendre et à lire les textes de Vatican II. Nous nous souviendrons toujours de frère Jean-Baptiste nous disant « Vous parlez de Vatican II, mais vous l'avez lu au moins ?» Non. Eh bien, achetez les textes, lisez-les comme obédience de cordée. Merci frère Jean-Baptiste.
Maintenant que nous avons situé le contexte, précisons un peu le vocabulaire. Le mot tradition, en latin traditio, acte de transmettre, vient du verbe tradere, faire passer à un autre, livrer, remettre. Une tradition dont le sens usuel est l'ensemble de coutumes, d'habitudes, de pratiques qui sont mémorisées et se transmettent d'une génération à l'autre. Dans l'Église, la tradition, avec un T majuscule, est plus qu'une transmission intellectuelle. Elle s'appuie sur la parole de Dieu, confiée par le Christ et par l'Esprit Saint aux apôtres qui la transmettent à leurs successeurs pour qu'ils la gardent vivante et la répandent avec fidélité. Ces richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Pour résumer, merci le compendium numéro 17, la tradition est un dépôt de la foi qui contribue au salut des hommes. Que retenir ? La tradition n'est donc pas une question de latin, de soutane ou de rubrique liturgique, mais bien une question de foi. Nous nous étions un peu fourvoyés dans notre interprétation.
Deuxième partie, née après le Concile, sommes-nous fidèles à la tradition ? Nous sommes nés après le Concile, 20 ans après. Nous n'avons malheureusement pas connu Saint Jean XXIII ni Paul VI. Mais nous pouvons clairement affirmer que nous sommes des enfants de Dieu qui ont découvert la foi avec Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Myrtille a eu l'immense joie de participer au JMJ à Paris en 1997. Elle a vu le pape Jean-Paul II de près. Elle se souvient d'une foule immense, d'une joie explosive malgré la pluie, des messes recueillies malgré l'assemblée démesurée, d'une jeunesse transportée malgré l'origine liturgique de chacun. C'était tellement marquant à 14 ans. Nous avons très longtemps été mal à l'aise, désorientés, voire même en colère pendant certaines messes. Nous avons fait l'amalgame entre les abus, les excès, les sacrilèges vécus dans différentes paroisses avec les textes de Vatican II. Sans vouloir nous appesantir sur ces fautes, il est normal de les dénoncer pour revenir à la grande tradition. Myrtille a vécu certaines messes à Nîmes, où tout le monde devait partager l'Eucharistie en même temps, une vraie belle image de messe protestantisée.
Protestantisée.
Il y a 4 ans, je me suis vu refuser la communion car j'étais à genoux. Le prêtre me disant « Un homme doit communier debout et dans la main ». La même année, le diacre de notre paroisse nous exhortait à arrêter d'être d'être pointilleux sur la liturgie et nous a expliqué que le sacré, c'était avant. Cela devait sûrement être après que nous ayons demandé d'arrêter de faire l'apéritif dans l'église après la messe, ou que nous ayons marqué notre étonnement après que des sœurs aient mimé l'évangile autour de l'autel. Nous avions une vraie soif de la belle liturgie, de la liturgie respectueuse du sacré, des lieux, des hommes et surtout de Dieu. À Angers, nous avons eu la chance d'avoir une paroisse mixte. Certaines messes sont également proposées en rite extraordinaire avec un abbé exceptionnel. Sûrement un saint homme, humble, patient, intelligent, dévoué. L'ayant rencontré pendant le confinement, nous avons goûté la joie d'avoir des sacrements qui nous transportent. En toute simplicité, en tant que pécheurs, nous avons besoin d'hommes, de prêtres qui nous guident et nous apprennent. Après le confinement, nous avons pleinement intégré cette paroisse. Nous avons demandé leur avis à nos enfants. Tous nous ont dit qu'ils préféraient la messe en rite extraordinaire car elle était plus recueillie, les chants, le grégorien, plus respectueux, les prières plus transcendantes. Ils nous ont seulement demandé un missel pour suivre. Nous ne sommes pas des tradis dans le sens usuel du terme. Nous ne nous reconnaissons pas dans les revendications souvent énoncées. Nous entendons souvent que la messe Paul VI n'est pas la vraie messe, qu'elle est fabriquée, qu'elle est centrée sur l'homme, qu'elle incite ou invite toutes sortes de débordements. En revanche, nous constatons chaque jour, chaque dimanche, que les messes en rite tridentin nous renvoient une image de ce qui manque ou qui est négligé dans la liturgie de paroisse en rite ordinaire. Nous aimerons Nous aimerons que le sacré soit au centre de nos églises, que sans tomber dans le cléricalisme, que le prêtre reprenne les rênes des paroisses et soit un vrai guide spirituel de chacun. Nous savons que cela est possible, il suffit d'assister à une messe et domini.
Parmi nos lectures, un texte a été important pour nous, important pour comprendre ce qu'est un abus ou une pratique incompatible avec la foi. Il s'agit de l'instruction Redemptionis Sacramentum, éditée en 2004, qui présente clairement ce qui doit être observé et évité concernant la très sainte Eucharistie. Nous nous en sommes nourris pour mieux comprendre la grande problématique autour de Vatican II, la mauvaise interprétation des textes pour certains, ou le contexte sociétal qui a servi d'excuse pour d'autres. Voilà un passage, on ne peut pas tout citer. Privé de sa valeur sacrificielle, le mystère eucharistique est considéré comme s'il n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une rencontre conviviale et fraternelle. L'efficacité des actions liturgiques ne réside pas dans les changements fréquents des rites, mais en vérité dans l'approfondissement de la parole de Dieu et du mystère célébré. Nous ne pouvons pas tout citer le texte ce soir, mais en revanche vous inciter à le lire en paroisse pour éliminer ces fameuses pratiques superficielles et incorrectes. Monseigneur Hayé écrivait que Saint Jean-Paul II a insisté sur le respect des prescriptions liturgiques pour nous permettre de retrouver le sens de la liturgie. Il semble tout de même dommage que tous les textes parus sur le sujet soient là pour limiter ou des abus et non enseigner l'excellence liturgique. Mais au fond, pourquoi est-ce si important pour nous ? Nous avons compris au fil des années qu'une liturgie sans aucune surprise, sans aucun changement, nous permettait de mieux rentrer dans la parole de Dieu et les textes du jour proposés. Nous ne sommes plus en position de spectateurs d'une scène plus ou moins maîtrisée, mais complètement acteurs, car nous pouvons méditer, réfléchir, recevoir la parole du Christ. En somme, une liturgie fidèle à la tradition est la clé pour que les fidèles soient amenés à une participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques. Il est très souvent dit, à juste titre, qu'il faut des années pour mesurer, comprendre et mettre pleinement en application un concile. Benoît XVI, en 2007, a permis de combler certaines imprécisions. Nous avons acheté pour nos deux garçons, lorsqu'ils servaient la messe en rite ordinaire, le cérémonial de la Sainte Messe à l'usage ordinaire des paroisses. Il est clair, précis et complet. Il permet de rentrer dans les normes liturgiques comme un guide éducatif dont nous avons tous besoin. Nous avons alors compris que la participation active des fidèles à la liturgie est une nécessité. Nos garçons servent avec joie et amour chaque rite. De notre côté, nous tournons notre cœur vers Dieu pour mieux vivre la communion avec l'Assemblée chrétienne. Nous tournons notre volonté et notre corps dans la prière. Nous participons aux rencontres et à la vie de la paroisse. Nous retenons des différents textes de Benoît XVI son grand souhait de demeurer fidèle à l'intention profonde du renouveau liturgique voulu par le Concile Vatican II, en continuité avec toute la grande tradition.
Et troisième partie, Vatican II dans notre quotidien aujourd'hui, à quelle place le situe-t-on ? Pour terminer, avant de vous endormir complètement, voici quelques aspects choisis de notre vie qui nous semblent correspondre à des témoignages de fidélité au Concile Vatican II, tels des enfants de la grande tradition de l'Église. Donc d'abord dans la belle et sainte liturgie, dans notre place dans l'Église. Mais qu'est-ce que la liturgie ? Demandait un jour Charlemagne à son savant ministre et chapelain Alcuin. La liturgie, répondit le moine, c'est la joie de Dieu. Dont Gérard Calvet écrivait « Joie de Dieu, la liturgie est aussi la joie des hommes devenus fils de Dieu, notre joie. » Et il précisait « Par la liturgie, notre foi s'éclaire d'année en année, le sens de Dieu s'affine en nous, la prière nous conduit à une meilleure connaissance des choses de Dieu. » Il qualifie la liturgie d'école d'oraison qui nous apprend la contemplation chrétienne qui est la prière et amour. Dans notre cheminement, nous avons mûri notre regard et pu trouver la vraie et belle liturgie, celle de la tradition, de Saint Jean-Paul II, de Benoît XVI et de Paul VI, elle qui nourrit notre foi. Nous nous sentons apaisés dans notre paroisse qui propose la Sainte Messe dans les deux rites, tout en œuvrant pour l'unité. En tant que baptisés, nous devons participer à la fonction prophétique, royale et sacerdotale du Christ. Notre vocation est de travailler comme du dedans à la satisfaction du monde, à la sanctification du monde, pardon. Chapitre 31. Quelle belle et dure responsabilité. Bon, à notre petite échelle, en tant que parents, notre première mission est de travailler à l'éducation de nos enfants. Dans notre quotidien, cela se traduit par le choix des écoles, un regard sur leurs relations, des camps et colonies FMND, bien entendu, les week-ends foyers et des lectures. Puis, dans notre relation avec l'Esprit-Saint, donc nous avons fait notre confirmation adulte et ensemble dans le Var. Pour cela, nous avons suivi une formation avec la communauté Saint-Martin et également à la Castille avec Mgr Ray. Nous avons découvert nos responsabilités de chrétiens dans l'évangélisation du monde. Vatican II nous rappelle que l'Église n'est pas faite pour les seuls chrétiens. Elle est envoyée à toute l'humanité pour accompagner à la lumière de la foi son humanisation et le salut spirituel du monde. Nous essayons de proposer une image du Christ dans notre quotidien en tant que chrétien. Myrtille peut difficilement témoigner de manière directe dans son travail. En revanche, elle essaie d'être souriante, de ne jamais critiquer les collègues ou de rendre service aux autres.
Cédric, en revanche, propose le bénédicité à tous ses employés, leur propose de s'émerveiller devant la beauté et la complexité de la création et témoigne de sa confiance malgré les aléas climatiques. Gaudium et Spes nous rappelle que, mû par la foi, se sachant conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, le peuple de Dieu s'efforce de discerner dans les événements, les exigences et les requêtes de notre temps, auxquelles il participe avec les autres hommes, quels sont les signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu. La foi, en effet, éclaire toute chose d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers des solutions pleinement humaines. Alors, on aurait pu en trouver d'autres, mais il a fallu terminer. Le dernier, c'est sur notre vision de l'homme, travailleur dans notre société. Toujours dans Gaudium et Spes, nous retenons que le but fondamental n'est pas la seule multiplication des biens produits, ni le profit ou la puissance. C'est le service de l'homme. Au quotidien, Cédric le vit dans sa responsabilité de chef d'entreprise. Il jongle sur un fil entre faire croître son entreprise, ou plutôt la pérenniser, et offrir un salaire décent à chacun. Sa vision du travail garde en mémoire celle décrite dans la Genèse. Tu auras ta nourriture en cultivant les champs, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu proviens. Cédric a le souci de l'épanouissement par le travail de chaque personne et de sa capacité à nourrir sa famille. C'est un devoir social important qui permet de respecter la dimension humaine de chaque membre de l'entreprise. Nous ne pouvons pas vivre de la providence, enfin, nous n'avons pas vraiment essayé. Nous avons encore quelques peurs et réticences. Mais nous souhaitons ralentir notre consommation, donner une seconde vie aux habits, apprendre à réparer et faire par nous-mêmes. Sans tomber dans une idéologie enfermante, nous essayons de discerner le besoin du vital et du confort. Apprendre aux enfants à bannir le consumérisme, à ne jamais changer d'habit comme de coiffure, à se satisfaire d'une chemise raccommodée ou des chaussures du cousin. Nous avons également aiguisé notre discernement sur les signes de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie et dans l'histoire actuelle. Dans une moindre mesure, apprendre à remercier une voiture plus lente devant nous, c'est difficile, car Dieu fait grandir en nous la vertu de patience et nous évite sûrement un accident. Pour conclure, nous nous sentons pleinement des enfants du Concile Vatican II, dans lequel nous puisons des axes de vie concernant le rapport au travail, à l'éducation, à la société, aux autres, dans notre implication dans les paroisses, dans l'Église, en témoin de la tradition que nous espérons fidèle. Pour finir, comme nous ne sommes ni théologiens ni saints, nous faisons confiance en l'Église, en Dieu, qui nous fait vivre en ces temps, à cette place, sûrement la meilleure pour nous. Et nous voulons aussi vous proposer une prière pour l'Église.
Esprit Saint, Créateur de toutes choses, venez en aide avec bienveillance à l'Église catholique. Affermissez-la, fortifiez-la de votre puissance céleste contre les assauts de ses ennemis. Par votre grâce pleine d'amour, insufflez un esprit nouveau dans vos fidèles, marqués dans votre onction, afin qu'ils glorifient en vous le Père et son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.